Guerre et paix. Deuxième partie, chapitre 1, scène 16. Soudain, un frémissement parcourut tous les groupes. On se porta en avant, on recula, on se sépara. L'orchestre éclata en une bruyante fanfare et l'empereur, suivi du maître et de la maîtresse de la maison, fit son apparition. Il s'avança rapidement entre les deux haies vivantes qui s'étaient formées sur son passage, saluant de tous les côtés et visiblement pressé de s'affranchir au plus vite de ces démonstrations inévitables. L'empereur entra dans le salon voisin. La foule se précipita sur ses pas, puis, refoulée en arrière, elle démasqua la porte, auprès de laquelle Sa Majesté causait avec la maîtresse de la maison, au son de la polonaise du jour, commençant par ces paroles. « Alexandre, Élisabeth, excite notre enthousiasme. » Un jeune homme, tout effaré, supplia les dames de se reculer. Mais plusieurs d'entre elles, oubliant toute convenance, oubliant même leur toilette, jouèrent des coudes afin de gagner le premier rang, car les couples commençaient à se former pour la danse. On fit place. L'empereur, souriant, donnant la main à la maîtresse de la maison et marchant à contre-mesure, ouvrit le cortège. Le maître de la maison le suivit avec la belle Marie Antonovna Narychkine. Puis venaient des ambassadeurs, des ministres, des généraux. La majorité des dames avaient été engagées et s'étaient jointes à la polonaise, pendant que Natacha, sa mère et Sonia faisaient tapisserie avec la minorité. Ses bras pendant le long de sa mignonne personne et sa gorge à peine naissante se soulevant doucement, elle regardait devant elle de ses yeux brillants et inquiets, et l'expression de sa petite figure variait, indécise, entre une grande joie et une grande déception. Ni l'empereur ni les gros bonnets ne l'intéressaient. Une seule pensée la tourmentait. « Personne ne s'approchera-t-il donc de moi pour m'inviter ?» se disait-elle. « Ne danserai-je donc pas de la soirée ? Tous ces hommes semblent ne pas me voir. Ou, s'ils me voient, ils s'imaginent sans doute que ce serait temps perdu de s'occuper de moi. Ils ne savent certainement pas que je brûle du désir de danser, que je danse dans la perfection et qu'ils s'amuseraient beaucoup avec moi. » La musique, qui ne cessait pas, la rendait encore plus triste et lui donnait envie de pleurer. Mademoiselle Péronsky les avait abandonnés et son père était à l'autre bout de la salle. Isolées, perdues toutes trois dans cette cohue étrangère, elles n'inspiraient d'intérêt à personne et personne ne s'inquiétait d'elles. Bolkonski, conduisant une dame, les effleura sans les reconnaître. Le bel Anatole, souriant et causant avec sa danseuse, laissa en passant glisser son regard sur Natacha avec autant d'indifférence que si elle avait fait partie intégrante du mur. Boris défila deux fois devant elle et deux fois détourna la tête. Berg et sa femme, qui ne dansaient pas, se réunirent aux pauvres délaissés. Natacha fut profondément humiliée de la formation en plein bal de ce groupe de famille. N'avait-on pas son chez-soi pour causer de ses affaires? Aussi ne fit-elle pas la moindre attention aux paroles de Vera, ni à sa toilette d'un verre éclatant. Enfin, l'empereur acheva son troisième tour. Il avait changé trois fois de dame, et la musique se tut. Un aide-de-camp empressé se précipita vers les dames Rostov, les engageant à reculer encore, quoiqu'elles fussent déjà acculées à la muraille. Et les premiers accords d'une valse au rythme doux et entraînant se firent entendre. L'empereur, un sourire sur les lèvres, passait en revue la société. Personne ne s'était encore lancé dans le cercle. L'aide de camp ordonnateur s'approcha alors de la comtesse Bezoukhov et l'engagea. Elle lui répondit en posant doucement le bras sur son épaule. Le danseur, passant aussitôt le sien autour de sa taille, l'entraîna dans l'espace laissé libre. Ils glissèrent ainsi jusqu'au bout opposé de la salle. Là, s'emparant de la main gauche de sa dame, l'adroit cavalier la fit tourner sur elle-même, et ils s'élancèrent de nouveau avec une vitesse croissante, au son de la musique qui précipitait la mesure, au bruit des éperons qui s'entrechoquaient, pendant que la robe de velours de sa belle danseuse se gonflait comme une voile en suivant en cadence la mesure à trois temps. Natacha ne les quittait pas de ses yeux envieux et aurait volontiers pleuré de ne pas avoir été choisie pour ce premier tour. Le prince André, vêtu de son uniforme blanc de cavalerie, avec épaulettes de colonel, en bas de soie et en souliers à boucles, gai et en train, causait, à quelques pas de Rostov, avec le baron Firov, de la première séance du Conseil de l'Empire, qui venait d'être fixée au lendemain. Le baron, qui connaissait son intimité avec Speransky et ses travaux législatifs, recueillait auprès de lui des renseignements précis sur un sujet qui donnait lieu à une foule de commentaires. Mais le prince ne prêtait qu'une oreille distraite à ses paroles, et il portait ses regards tantôt sur l'empereur, tantôt sur le groupe des cavaliers qui se préparaient à la danse, sans pouvoir se décider à suivre leur exemple. Il examinait avec curiosité ces hommes intimidés par la présence du souverain et ces femmes qui se pâmaient du désir d'être invitées. Pierre s'approcha de lui en ce moment.
« Vous qui dansez toujours, allez donc engager ma protégée, la jeune comtesse Rostov. Où est-elle ? Mille excuses, baron, nous reprendrons et achèverons une autre fois cette conversation, mais ici, il faut danser. »
ajouta-t-il, et il suivit Bezoukhov. La petite figure désolée de Natacha le frappa. Il la reconnut, devina ses impressions de débutante, et, se souvenant de sa causerie au clair de la lune, il s'approcha gaiement de la comtesse. « Permettez-moi de vous présenter ma fille, » lui dit-elle en rougissant.
« J'ai l'honneur de la connaître, mais je ne sais si elle se souvient de moi. »
répondit le prince André en la saluant avec une politesse respectueuse qui démentait la sévère critique de la vieille Piransky. Lui proposant un tour de valse, il passa son bras autour de la taille de Natacha, dont la figure s'éclaira subitement. Un sourire radieux, reconnaissant, débordant de joie, illumina sa bouche, ses yeux, et en chassa les larmes prêtes à jaillir. « Je t'attends depuis une éternité, » semblait-elle lui dire. Heureuse et émue, elle se pencha doucement sur l'épaule de son cavalier, qui passait à bon droit pour un des premiers danseurs du moment. Elle aussi dansait à ravir, et, de ses pieds mignons, elle effleurait le parquet sans la moindre hésitation. Sans doute ses épaules et ses bras grêles et anguleux, sa gorge à peine formée, ne pouvaient être comparées avec les épaules et les bras d'Hélène, sur lesquels s'étendait pour ainsi dire le lustre qui avait laissé les milliers de regards fascinés par sa beauté. Quant à Natacha, ce n'était qu'une petite fille, décolletée pour la première fois, et qui certainement en aurait eu honte si on ne lui avait assuré qu'il devait en être ainsi. Le prince André aimait la danse. Cette fois cependant, pressé de mettre fin à d'ennuyeuses conversations politiques et de se dérober à la contrainte causée par une auguste présence, il n'avait choisi Natacha que pour obliger son amie, et parce qu'elle était la première jolie figure qui avait attiré ses yeux. Mais à peine eut-il entouré de son bras cette taille si flexible, si fine, à peine l'eut-il senti se pencher et se balancer contre sa poitrine, à peine eut-il répondu à ce sourire, si voisin de ses lèvres, que les charmes de sa fraîche beauté lui montèrent à la tête et le grisèrent comme un vin généreux. Son tour de valse achevé, essoufflé, hors d'haleine, il lui rendit la liberté et s'accorda quelques instants de repos en regardant danser les autres, heureux de sentir poindre en lui ce regain de jeunesse et de vie.